Chapitre 6. Il y a un seul Dieu. Le vrai Dieu et les idoles. Et ce sont ici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez pour le posséder, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour garder, tous les jours de ta vie, toi et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te commande, et afin que tes jours soient prolongés. Et tu écouteras, Israël, et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu prospères, et que vous multipliiez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Versets 1 à 4. Ici nous est présentée cette grande vérité que la nation d'Israël était spécialement responsable de retenir et de confesser l'unité de Dieu. Cette vérité constituait la pierre de fondement de la révélation faite à Israël. Si le peuple l'abandonnait, tout disparaissait. C'était, pour ainsi dire, le grand rempart national qui séparait Israël de tous les autres peuples de la terre. Ils étaient appelés à proclamer cette glorieuse vérité à la face d'un monde idolâtre qui révérait ses innombrables dieux. Abraham avait été appelé hors de l'idolâtrie païenne pour devenir le témoin du seul Dieu vivant et vrai, se confier en lui, marcher avec lui, s'appuyer sur lui et lui obéir. Le dernier chapitre du livre de Josué nous enseigne expressément ce fait important. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il appela les anciens d'Israël, et ses chefs, et ses juges, et ses magistrats, et ils se tinrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence. » Josué 24, verset 1 à 3. Ici, Josué rappelle au peuple que leurs pères ont servi d'autres dieux, faits solennels, et dont le souvenir devait leur faire sentir le profond besoin qu'ils avaient de veiller sur eux-mêmes, de peur d'être entraînés de nouveau dans l'idolâtrie hors de laquelle Dieu avait appelé leur père Abraham. Il aurait été sage de leur part de considérer que le mal dans lequel leur père avait vécu autrefois constituait un danger particulier pour eux. Les avertissements de Josué contre l'idolâtrie. Après avoir présenté ce fait au peuple, Josué retrace tous les principaux événements de leur histoire. Puis il résume son discours par un appel « Et maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, versets 14 et 15. Remarquez cette allusion répétée au fait que leur père avait adoré des faux dieux et que le pays dans lequel l'Éternel les avait amenés avait été souillé, d'une extrémité à l'autre, par les abominations de l'idolâtrie païenne. Ainsi, Josué cherche à attirer l'attention du peuple sur le danger qu'il court d'abandonner la grande vérité fondamentale d'un seul Dieu vivant et vrai, pour retourner au culte des idoles. Il insiste sur la nécessité urgente pour eux d'une décision claire. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Rien ne vaut une décision de cœur franche et complète pour Dieu. C'est ce que nous lui devons en tout temps. Quant à Israël, Dieu lui avait donné des preuves évidentes que lui-même était pour eux, en les rachetant de la servitude d'Égypte, et en les conduisant à travers le désert pour les établir au pays de Canaan. Pour cette raison, on aurait pu attendre d'eux une consécration complète à l'Éternel. Les paroles de Josué prouvent combien il en sentait profondément l'importance pour ce qui le concernait. Mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Précieuse décision qui nous montre que, quelle que soit la déchéance environnante, la piété individuelle et familiale peut être maintenue en tout temps et en tout lieu. Il est vrai que cette résolution ne peut être mise en pratique que par le secours constant de la grâce de Dieu. Mais nous pouvons être assurés que si notre cœur est déterminé à suivre entièrement le Seigneur, toute grâce nécessaire nous sera fournie jour après jour. Au premier abord, l'effet de l'appel de Josué à la congrégation semble réjouissant. Et le peuple répondit et dit : Loin de nous que nous abandonnions l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ses grands signes, et qui nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé de devant nous tous les peuples et l'Amoréen qui habitait dans le pays. Aussi, nous, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué 24, versets 16 à 18. Tout ceci sonnait très bien et pouvait donner de l'espoir. Le peuple paraissait avoir une idée juste du fondement moral des droits de l'Éternel à leur obéissance. Ils pouvaient faire un récit exact de toutes ces œuvres de puissance et de bonté à leur égard, protester sérieusement contre l'idolâtrie et promettre d'obéir à l'Éternel. Cependant, il est évident que Josué n'avait pas une grande confiance en leur déclaration. Il dit au peuple : Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas votre transgression et vos péchés. Si vous abandonnez l'Éternel et si vous servez des dieux étrangers, alors il se retournera et vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. » Et le peuple dit à Josué : « Non, car nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit au peuple : « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui vous êtes choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils dirent : « Nous en sommes témoins. Et maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué : « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous écouterons sa voix. » Josué 24, versets 19 à 24. Tout le discours de Josué est fondé sur la vérité de l'unité de Dieu, vérité à laquelle Israël était appelé à rendre témoignage devant toutes les nations de la terre, et dans laquelle se trouvait leur sauvegarde morale contre les influences séductrices du paganisme. L'histoire subséquente d'Israël. Or, cette vérité même fut celle qu'ils abandonnèrent la première, et cela de la manière la plus marquée. Les promesses et les résolutions prises sous l'influence des paroles de Josué se trouvèrent être semblables à la rosée du matin qui s'en va très vite. Et le peuple servit l'Éternel tous les jours de Josué et tous les jours des anciens dont les jours se prolongèrent après Josué et qui avaient vu toute la grande œuvre de l'Éternel qu'il avait faite pour Israël. Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, et après eux se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et servirent les Baals. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux. Et ils provoquèrent à colère l'Éternel, et abandonnèrent l'Éternel, et servirent Baal et Ashtaroth. Juges 2, versets 7 à 13. Quel avertissement solennel pour nous tous! Abandonner le seul Dieu vivant et vrai pour suivre Baal et Astarté. Tant que Josué et les anciens vivaient, leur présence et leur influence avaient gardé Israël d'une apostasie ouverte. Mais à peine ces digues morales sont-elles ôtées que le courant de l'idolâtrie les envahit et emporte le fondement même de la vérité que Dieu leur avait confiée. Nous voyons ici que l'influence humaine est un pauvre appui, une faible barrière. Il nous faut être soutenus par la puissance de Dieu, autrement, tôt ou tard, nous succomberons. Il nous faut une vraie foi. Il doit y avoir un lien vivant entre nos âmes et Dieu. Nous devons avoir affaire avec Dieu pour nous-mêmes, individuellement. Autrement, lorsque le temps de l'épreuve surviendra, nous défaillirons. L'exemple et l'influence de l'homme sont bons à leur place. Il était bon de considérer comment Josué et les anciens suivaient l'Éternel. Il est encourageant d'être entouré de cœurs réellement dévoués. Il est utile d'être soutenu par le courant d'une fidélité collective à Christ, à sa personne et à sa cause. Mais si c'est tout, si la source profonde d'une foi et d'une connaissance personnelle n'existe pas, s'il n'y a pas de lien maintenu avec Dieu par une communion individuelle avec lui, lorsque les appuis humains manquent, lorsque la décadence générale commence, alors nous serons semblables à Israël. Nous avons à retirer de profondes et sérieuses leçons de l'histoire d'Israël, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Romains 15, verset 4. Alors, étudions avec soin les récits rapportés dans les pages de l'histoire inspirée, puisque de grandes leçons pratiques peuvent en être retirées. Ce que nous venons de faire ressortir dans l'histoire d'Israël, à savoir l'abandon de la vérité même que ce peuple était spécialement appelé à maintenir et à confesser, est pour nous un avertissement de la plus grande importance. L'existence d'Israël comme nation dépendait de cette vérité glorieuse de l'unité du vrai Dieu, et ils l'abandonnèrent. En l'abandonnant, ils perdaient tout. Ils devenaient même pires que les nations qui les environnaient, puisqu'ils péchaient contre la lumière qu'ils avaient reçue, en dépit des plus solennelles exhortations et malgré leurs promesses d'obéissance. Oui, Israël abandonna le culte du seul Dieu vivant et vrai, l'Éternel, le Dieu de leur alliance, non seulement leur Créateur, mais leur Rédempteur, celui qui les avait retirés d'Égypte, conduits à travers la mer Rouge, le désert et le Jourdain, pour les établir triomphalement dans l'héritage qu'il avait promis à Abraham leur père. Ils se détournèrent de lui et s'adonnèrent au culte des faux dieux. Ils le provoquèrent à colère par leurs hauts lieux et les murent à jalousie par leurs images taillées. Psaume 78, verset 58. Et c'était un peuple qui avait vu et connu la bonté, la grâce et la fidélité de Dieu, qui avait été témoin de ses actes de puissance et de gloire. Leur histoire entière, depuis les jours du veau d'or, jusqu'au temps où Nebuchadnezzar réduisit Jérusalem en ruine, est marquée par un esprit d'idolâtrie invétéré. Ce fut en vain que l'Éternel, dans sa patiente miséricorde, leur suscita des libérateurs pour les soustraire aux terribles conséquences de leurs péchés et de leurs folies. Plusieurs fois, il les délivra de la main de leurs ennemis, leur suscitant un Othniel, un Éhud, un Barak, un Gédéon, un Jephté, un Samson, tous des instruments de sa puissance et de sa miséricorde. Mais à peine chacun de ces juges avait-il disparu de la scène que la nation se plongeait de nouveau dans l'idolâtrie. Au temps des rois, nous voyons la même affligeante histoire. Nous découvrons, il est vrai, quelques points brillants au milieu des ténèbres. Nous avons un David, un Asa, un Josaphat, un Ézéchias, un Josias. Mais quelle que soit leur fidélité, ces hommes ne purent extirper cette racine d'idolâtrie du cœur de la nation. Au milieu des splendeurs sans pareil du règne de Salomon, cette racine produisit des rejetons sous forme de hauts lieux élevés à Ashtaroth, déesse des Sidoniens, à Milcom, l'abomination des Ammonites, et à Kemosh, l'abomination de Moab. Nous avons là une des preuves les plus frappantes de l'apostasie complète d'Israël quant à la vérité du seul vrai Dieu. Nous ne nous arrêterons pas sur le jugement que Dieu a exécuté sur la nation à cause de son idolâtrie. La condition actuelle de ce peuple est celle dont parle le prophète Osée, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice et sans statue et sans éphod ni théraphime. Osée 3, verset 4. L'esprit immonde de l'idolâtrie est sorti d'eux pour beaucoup de jours, et il y retournera bientôt avec sept autres esprits plus méchants que lui-même. Luc 11, verset 24 à 26. Et alors surviendront des jours de tribulation incomparables pour ce peuple si longtemps égaré et révolté, le temps de la détresse pour Jacob. Jérémie 30, verset 7. Mais, Dieu soit béni, la délivrance viendra. Des jours de bonheur sont réservés à la nation restaurée. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Osée 3, verset 5. Toutes les promesses de Dieu à Abraham, Isaac, Jacob et David s'accompliront. Toutes les brillantes prédictions des prophètes, d'Ésaïe à Malachie, auront un glorieux accomplissement. Car l'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10, verset 35. À la longue nuit succédera le plus glorieux jour qui ait jamais brillé sur la terre. La fille de Sion se réchauffera aux rayons du soleil de justice, et la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habacuc 2, verset 14. Parallèle avec l'histoire de l'Église. L'histoire d'Israël et son abandon de la vérité essentielle que ce peuple avait à garder ont pour nous une portée des plus solennelles. L'Église a été établie comme témoin public de Christ sur la terre, dans toute la plénitude des bénédictions et des privilèges qui ont marqué le début de son histoire. Mais très vite, elle a commencé à laisser échapper les vérités mêmes qu'elle était spécialement responsable de maintenir et de confesser. Ces vérités qui devaient caractériser le christianisme et le distinguer de tout ce qui avait précédé. Comme Adam au jardin d'Éden, comme Noé sur la terre restaurée, comme Israël en Canaan, l'Église, à peine établie comme administrateur responsable des mystères de Dieu, commença son déclin et sa chute. Déjà sous les yeux des apôtres, des erreurs et des maux surgirent, travaillant à miner les fondements mêmes du témoignage de l'Église. Les preuves de ce fait abondent. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul qui a répandu plus de larmes sur la ruine de l'Église qu'aucun autre homme. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Galates 1, versets 6 et 7. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Galates 3, verset 1. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournez-vous de nouveau au faible et misérable élément auquel vous voulez encore de rechef être asservi? Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. Galates 4, versets 8 à 11. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Galates 5, versets 7 à 9. Par leur retour à des observances légales, les Galates se détournaient des grandes vérités d'un christianisme céleste pour retourner à ce qui était équivalent au culte des idoles. Tout ceci se passait au temps même de l'apôtre. L'abandon de la vérité fut encore plus rapide que dans le cas d'Israël. Les Israélites avaient servi l'Éternel sous les jours de Josué et tous les jours des anciens qui lui survécurent. Mais dans la triste et humiliante histoire de l'Église, l'ennemi réussit presque immédiatement à introduire du levain dans la farine, de l'ivraie parmi le froment. Avant même que les apôtres aient disparu de la scène, une semence a été jetée. Elle a continué et elle continuera à produire des fruits pernicieux jusqu'à ce que des moissonneurs angéliques viennent nettoyer le champ. Écoutons le même apôtre, à la fin de sa carrière, épanchant son cœur dans celui de son bien-aimé enfant Timothée. « Tu sais ceci que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. » De Timothée 1, verset 15. Et encore, « Il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. » De Timothée 4, versets 3 et 4. Tel est le témoignage de l'homme qui, en sage architecte, avait posé les fondements de l'Église. Comme son maître, il avait été abandonné, délaissé par ceux qui, une fois, avaient marché avec lui dans toute la fraîcheur et l'ardeur des premiers temps. Son cœur large et aimant avait été brisé par des docteurs judaïsants qui cherchait à renverser les fondements même du christianisme et la foi des élus de Dieu. Il pleurait sur les voix de ceux qui, tout en se disant chrétiens, étaient néanmoins ennemis de la croix de Christ. Philippiens 3, verset 18. Dans sa prison à Rome, il prévoyait la décadence et la ruine de l'Église professante. Il savait que son sort serait pareil à celui du vaisseau dans lequel il avait fait son dernier voyage. L'Église responsable est l'unité du corps de Christ. Précisons que nous ne sommes occupés maintenant que de l'Église dans son caractère de témoin responsable pour Christ sur la terre. Il est indispensable de faire la distinction entre l'Église comme corps de Christ et l'Église comme luminaire ou témoin de Christ dans le monde. Dans ce premier caractère, il ne peut y avoir de déchéance, tandis que dans le second, la ruine est complète et sans espoir. L'Église, comme corps de Christ, unie à sa tête glorifiée dans les cieux par le Saint-Esprit, ne peut jamais faillir. Elle ne peut connaître aucun naufrage. Elle est aussi à l'abri que Christ lui-même. La tête et le corps sont un, indissolublement liés. Telle qu'est la tête, tels sont les membres. Tous ont droit au plein résultat de l'œuvre accomplie sur la croix. Comprenons bien que l'unité du corps de Christ est absolument indissoluble. C'est là un point essentiel qui doit être fidèlement maintenu. Parfois, nous entendons parler de diviser le corps de Christ. C'est une grave erreur. La chose est complètement impossible. Les réformateurs ont été accusés de rompre ou de désunir le corps de Christ lorsqu'ils ont tourné le dos au système romain. Ce système devait-il être reconnu comme le corps de Christ? Il ne faut jamais confondre les systèmes ecclésiastiques de ce monde, anciens ou modernes, romains, réformés, nationaux ou dissidents, avec la vraie Église de Dieu, le corps de Christ. Il n'existe de nos jours et il n'a jamais existé aucun système religieux qui possède le moindre droit d'être appelé l'Église de Dieu ou le corps de Christ. Par conséquent, on ne peut appeler schisme ou division du corps de Christ la séparation d'avec de tels systèmes. Au contraire, le devoir de toute âme qui désire maintenir fidèlement et confesser la vérité de l'unité du corps est de se séparer avec décision de tout ce qui s'appelle faussement une Église. Aucun corps de chrétien ne peut maintenant revendiquer le droit au titre de corps de Christ ou d'Église de Dieu. Les membres de ce corps sont dispersés partout. Il peut s'en trouver dans toutes les diverses organisations religieuses du jour, excepté dans celles qui nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, quoiqu'aucun corps de chrétien n'ait droit au titre d'assemblée de Dieu, tous les chrétiens sont responsables de se réunir sur le terrain de cette assemblée et sur aucun autre. Et si l'on nous demande « Comment reconnaître et où trouver ce terrain ?» nous répondrons « Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. » Luc 11, verset 34. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu. Jean 7, verset 17. Il y a un sentier, Dieu soit béni. Où est-il donc? À chacun de nous, Dieu dit, « Voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. » Job 28, verset 28. Il est aussi vrai aujourd'hui que lorsque l'apôtre inspiré écrivait le quatrième chapitre de son épître aux Éphésiens, qu'il y a un seul corps, dont Christ est la tête, dont le Saint-Esprit est la puissance, et dont tous les vrais croyants sont les membres. Ce corps a été sur la terre depuis le jour de la Pentecôte, et il continuera d'y être jusqu'au moment où Christ viendra l'introduire dans la maison de son Père. L'unité de l'Église peut être comparée à une chaîne jetée à travers une rivière. Nous la voyons aux deux bords, mais elle plonge au milieu. Quoique cachée dans l'eau, elle n'est pas rompue. Et sans voir les chaînons du milieu, nous y croyons néanmoins. L'Église a été vue dans son unité au jour de la Pentecôte. Elle sera vue dans son unité dans la gloire. Et, quoique ne voyant pas cela maintenant, nous y croyons néanmoins fermement. Devrions-nous abandonner la vérité de Dieu parce que l'homme a manqué à la maintenir et à la manifester? Israël a complètement manqué à maintenir et à confesser la vérité de l'unité de Dieu. Mais cette glorieuse vérité n'a été en aucune manière atteinte par ses manquements. Il était aussi vrai qu'il n'y avait qu'un Dieu lorsque les autels idolâtres remplissaient les rues de Jérusalem, que lorsque Moïse prononça les paroles « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Grâce à Dieu, sa vérité ne dépend pas des voies infidèles et insensées des hommes. Elle demeure dans sa propre intégrité divine. Elle brille de son propre éclat céleste en dépit de tous les manquements de l'humanité. Mais comment cette vérité de l'unité du corps peut être maintenue pratiquement? En refusant de reconnaître aucun autre principe de communion chrétienne, aucun autre terrain de rassemblement que Christ. Tous les vrais croyants devraient se réunir sur le simple terrain de communion du corps de Christ. Ils devraient se réunir le premier jour de la semaine autour de la table du Seigneur et rompre le pain comme étant membres d'un seul corps, suivant ce que nous lisons en 1 Corinthiens 10, verset 17, car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Cela est aussi vrai et aussi pratique aujourd'hui que lorsque l'apôtre s'adressait à l'assemblée de Corinthe. Il est vrai qu'il y avait des divisions à Corinthe, comme il y en a dans la chrétienté, mais cela n'altérait en aucune manière la vérité de Dieu. L'apôtre blâmait les divisions. Il les déclarait charnelles. Il n'avait aucune sympathie pour cette misérable idée émise quelquefois que les divisions sont une bonne chose pour produire de l'émulation. Il croyait au contraire qu'elles étaient une très mauvaise chose, le fruit de la chair, une œuvre de Satan. L'apôtre n'aurait pas non plus, nous en sommes certains, accepté cette explication populaire que les divisions dans l'Église sont comme autant de régiments avec des drapeaux divers, mais combattant tous sous le même chef. Il y a un seul corps. Marchons-nous d'une manière conforme à cette vérité? La proclamons-nous à la table du Seigneur chaque premier jour de la semaine, comme c'est notre devoir et notre privilège de le faire? Ne disons pas qu'il y a des faiblesses chez ceux qui font profession de se réunir de cette manière. Ce n'est que trop vrai, et nous devons nous y attendre. Mais il importe de faire une distinction entre la vérité et ceux qui la professent, entre le terrain et la marche de ceux qui l'occupent. Nous devons juger la conduite par le terrain et non le terrain par la conduite. Il y avait à Corinthe des hérésies, des schismes, des erreurs, du mal sous toutes les formes. Mais la vérité de Dieu devait-elle être abandonnée pour cela? Fallait-il y renoncer comme à quelque chose de tout à fait impraticable? Les Corinthiens devaient-ils se réunir sur quelque autre principe? Devaient-ils s'organiser sur quelque nouveau terrain? Devaient-ils se grouper autour d'un autre centre? Non. Dieu en soit béni. Sa vérité ne devait pas être abandonnée un seul instant, quoique l'assemblée de Corinthe soit déchirée par des sectes et son horizon assombri par des hérésies. Le corps de Christ était un, et l'apôtre déploie simplement à leurs yeux la bannière portant cette inscription bénie « Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. » 1 Corinthiens 12, verset 27. Or, ces paroles ne s'adressaient pas seulement à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, mais aussi à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur est le nôtre. 1 Corinthiens 1, verset 2. Par conséquent, la vérité de l'unité du corps est permanente et universelle. Tout vrai chrétien est appelé à la reconnaître et à la pratiquer, et toute assemblée de chrétiens, en quelque lieu que ce soit, devrait être l'expression locale de cette grande et si importante vérité. Comment se fait-il qu'on pouvait dire à une assemblée « Vous êtes corps de Christ » N'y avait-il pas des saints à Éphèse, à Colosse et à Philippe? Sans doute, et si l'apôtre leur avait écrit sur ce même sujet, il aurait pu leur dire aussi « Vous êtes corps de Christ ». Ils étaient l'expression locale du corps. Et non seulement cela, mais en s'adressant à eux, il pensait à tous les saints jusqu'à la fin de la carrière terrestre de l'Église. Mais l'apôtre ne pourrait donner ce titre à aucun ordre de choses humains, anciens ou modernes. Et si même toutes ces diverses organisations étaient fondues en une seule, il ne pourrait les appeler « corps de Christ ». Ce corps est formé par tous les vrais croyants du monde entier. Et si tous ne sont pas réunis sur ce terrain, seul divin, c'est à leur perte et au déshonneur de leur Seigneur. La précieuse vérité « il y a un seul corps » subsiste tout de même, et c'est à cette mesure divine que doivent se mesurer toutes les associations ecclésiastiques et tous les systèmes religieux sous le soleil. La ruine complète de l'Église. Il est impossible de lire le Nouveau Testament avec attention et de ne pas voir que l'Église, en tant que témoin responsable pour Christ sur la terre, a totalement et honteusement manqué à sa mission. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, l'Église est vue sous le jugement. Nous avons là une histoire divine de l'Église. Cette assemblée sont choisies comme symbole des diverses phases de l'histoire de l'Église, depuis le jour où elle a été placée sur la terre avec sa responsabilité, jusqu'au moment où elle sera vomie de la bouche du Seigneur comme quelque chose d'intolérable. La première lettre est adressée à l'assemblée d'Éphèse. C'est à cette assemblée que Paul avait écrit l'épître où il découvre les desseins éternels de Dieu concernant l'Église, la position et la part de l'Église acceptée en Christ et bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en lui. Là, aucun manquement ne peut être trouvé. Tout procède de Dieu. Le propos est de lui. L'œuvre est de lui. C'est sa grâce, sa gloire, sa toute-puissance, son bon plaisir. Et tout cela fondé sur le sang de Christ. Il n'est pas là question de responsabilité. Les saints qui forment l'Église étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Mais Christ est mort pour eux. Il s'est placé judiciairement là où ils étaient moralement. Puis Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et les saints avec lui. Ici, tout est définitivement réglé. Nous voyons l'Église dans les lieux célestes, en Christ, non l'Église sur la terre, pour Christ. Mais il y a le côté terrestre, aussi bien que le céleste. Et c'est pourquoi dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, nous avons des paroles telles que celles-ci. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Nous ne trouvons rien contre le corps, rien contre l'épouse, mais il y avait quelque chose à reprocher à la lampe. Alors déjà, la lumière s'était obscurcie. Ainsi, dès le début, des symptômes de déclin se montraient à l'œil pénétrant de celui qui marchait au milieu des sept lampes d'or, et lorsque nous arrivons à la dernière phase de la condition de l'Église, telle qu'elle est représentée par l'assemblée de Laodicée, il n'y a plus un seul point favorable. Le cas est presque sans espoir. Le Seigneur se tient dehors, à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas ici comme à Éphèse. J'ai quelque chose contre toi. Tout l'état est mauvais. Toute l'assemblée professante va être rejetée. Je vais te vomir de ma bouche. Il attend encore, car il est toujours lent à quitter le terrain de la grâce pour entrer sur celui du jugement. Il s'attarde, non avec l'espoir d'une restauration encore, mais pour le cas où quelqu'un entendrait sa voix et lui ouvrirait la porte. Le fait qu'il est dehors montre l'état de l'Église. Le fait qu'il frappe montre ce qu'il est. Nous sommes submergés de tous côtés par de fausses notions quant à l'état actuel et à la destinée future de l'Église professante. Nous devons les rejeter avec une sainte fermeté et nous en tenir scrupuleusement à l'enseignement de l'Écriture. L'Église professante est en ruine, et le jugement est à la porte. Lisez l'Épître de Jude, lisez de Pierre 2 et 3, et la seconde Épître à Timothée. Examinez attentivement ces passages solennels. Cette étude vous prouvera que la chrétienté n'a rien d'autre devant elle sinon la colère inflexible du Dieu Tout-Puissant. Il en a été de l'Église comme d'Israël. Elle a abandonné la vérité même qu'elle était responsable de garder et de confesser. À peine les écrits du Nouveau Testament étaient-ils terminés, à peine les premiers ouvriers avaient-ils quitté le champ, que d'épaisses ténèbres se sont répandues partout. Les grandes vérités caractéristiques de notre glorieux christianisme ont été honteusement abandonnées. Comme Israël abandonna l'Éternel pour Baal et Ashtaroth, de même, l'Église abandonna la précieuse parole de Dieu pour des fables et de pernicieuses erreurs. Ce déclin rapide est précisément ce que l'apôtre Paul avait prédit aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Acte 20, versets 28 à 30. Quel tableau! Les saints apôtres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ remplacés presque immédiatement par des loups redoutables et par des propagateurs de doctrines perverses. L'Église tout entière plongée dans des ténèbres épaisses, la lumière de la révélation divine presque cachée au regard, la corruption ecclésiastique sous toutes ses formes, la domination sacerdotale avec toutes ses terribles conséquences. Bref, l'histoire de l'Église, l'histoire de la chrétienté, est l'histoire la plus effroyable qui soit. Il est vrai que Dieu s'est toujours suscité des témoins. De siècle en siècle, il a appelé, ici ou là, comme en Israël, des hommes pour proclamer sa vérité. Même au milieu des ténèbres les plus épaisses du Moyen-Âge, une étoile paraît parfois au-dessus de l'horizon. Plusieurs purent par la grâce de Dieu s'en tenir à sa parole et confesser le nom de Jésus, malgré la tyrannie et les cruelles persécutions de l'Église romaine. Puis vint le XVIe siècle, où Dieu suscita Luther et ses bien-aimés compagnons d'œuvre pour prêcher la grande vérité de la justification par la foi et pour donner au monde le précieux volume de Dieu en langue moderne. Comment exprimer tous les bienfaits de cette époque? Des milliers d'âmes entendirent la bonne nouvelle du salut, l'entendirent, la crurent et furent sauvées. Des milliers d'âmes qui avaient gémi longtemps sous le poids des superstitions romaines accueillir avec une profonde reconnaissance le message céleste. La lumière de la révélation divine, si longtemps voilée par la main de l'ennemi, put de nouveau jeter ses rayons au milieu des ténèbres, et des myriades se réjouirent à cette lumière céleste. Mais, tout en bénissant Dieu pour tous les résultats glorieux de ce qu'on nomme ordinairement la réformation, nous ne saurions voir là un retour de l'Église à sa première condition. Loin de là, les réformateurs, à en juger par leurs écrits, ne saisirent jamais la notion de l'Église, corps de Christ. Ils ne comprirent pas l'unité du corps, ni la présence du Saint-Esprit dans l'Assemblée et son habitation en chaque croyant. Ils ne connurent pas la grande vérité du ministère dans l'Église, sa nature, sa source, sa puissance et sa responsabilité. Ils en restèrent toujours à l'idée que le ministère est basé sur une autorité humaine. Ils se taisent sur la vraie espérance de l'Église, sur la venue de Christ pour son peuple, l'étoile brillante du matin. Ils ne comprirent que peu la portée des prophéties. Nous avons beaucoup d'estime pour les réformateurs, mais nous sommes néanmoins convaincus que ces honorés serviteurs de Christ demeurèrent ignorants de plusieurs des vérités spéciales et caractéristiques du christianisme, et par conséquent ne les prêchèrent ni ne les enseignèrent. Du moins, nous ne trouvons pas ces vérités dans leurs écrits. Ils prêchèrent la précieuse vérité de la justification par la foi, ils donnèrent les saintes écritures au peuple, ils foulèrent aux pieds beaucoup de superstitions romaines. Ils firent tout cela, par la grâce de Dieu, et nous l'en bénissons. Mais le protestantisme n'est pas le christianisme, et les églises nommées églises de la Réformation, qu'elles soient nationales ou dissidentes, ne sont pas l'église de Dieu, loin de là. Oui, l'Église professante a fait naufrage, et la chrétienté descend rapidement la pente fatale qui mène aux ténèbres finales. Les pays favorisés où la vérité évangélique a été prêchée, où les Bibles et les traités ont circulé par millions, seront bientôt couverts de ténèbres épaisses et tomberont dans une énergie d'erreur pour croire aux mensonges. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Verra-t-on alors un monde converti? Non. Mais une Église jugée. Les saints de Dieu dispersés dans la chrétienté, tous les vrais membres du corps de Christ, seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Les saints endormis seront ressuscités, et les vivants seront transmués en un instant. Tous seront ravis en même temps pour être toujours avec le Seigneur. Alors le mystère d'iniquité se montrera en la personne de l'homme de péché, de l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus viendra, et tous ses saints avec lui, pour exécuter un jugement impitoyable. Retenons donc bien ceci. Tout comme Israël abandonna la vérité qu'il devait garder, de même l'Église professante a laissé échapper toutes les grandes vérités qui caractérisent le christianisme telles que le Nouveau Testament les enseigne. Notre désir est de réveiller les cœurs de tous les vrais chrétiens au sujet de ces vérités et de leur faire sentir la responsabilité qui leur incombe, non seulement de les recevoir, mais de chercher à les réaliser mieux dans la pratique et à en faire une confession plus claire. Nous voudrions voir se lever nombreux, dans ces dernières heures de l'histoire terrestre de l'Église, des hommes doués d'une véritable puissance spirituelle pour proclamer avec ardeur les vérités trop longtemps oubliées de l'Évangile de Dieu. Veuille le Seigneur susciter de tels hommes et les envoyer. Puisse le Seigneur Jésus frapper de plus en plus fort à la porte, afin que beaucoup d'âmes entendent et lui ouvrent, selon le désir de son cœur, et qu'elles goûtent la douceur d'une communion personnelle avec lui-même en attendant sa venue. Reconnaissons notre faiblesse et notre néant. Mettons de côté toute prétention, ne cherchons pas à être quelque chose, mais gardons la parole de Christ et ne renions pas son nom. Trouvons notre bonheur à rester à ses pieds, à nous nourrir de lui, et notre joie à le servir en toutes choses. Aimer l'Éternel et sa parole. Nous continuerons maintenant notre chapitre. Ayant posé la grande vérité fondamentale contenue au verset 4, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. » Moïse continue à enjoindre à la congrégation ses devoirs sacrés envers l'Éternel. Il n'était pas seulement un Dieu, mais il était leur Dieu. Il avait daigné faire une alliance avec eux. Il les avait délivrés de leur esclavage en Égypte. Il les avait portés comme sur des ailes d'aigle et amenés à lui, afin qu'ils soient son peuple et que lui soit leur Dieu. C'était une relation précieuse. Mais il fallait rappeler à Israël quelle était la conduite qui convenait à une telle relation et qui ne pouvait résulter que d'un cœur aimant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Verset 5. C'est la base de tout. Sans cela, tout est sans valeur pour Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, verset 26. Lorsque le cœur est donné, tout va bien. Et il nous dit encore, « Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. » 1 Jean 3, verset 18. Ces paroles nous révèlent son cœur aimant. Il nous aime en action et en vérité, et rien d'autre ne saurait le satisfaire, soit dans notre conduite envers lui, soit envers nos semblables. Tout doit procéder directement du cœur. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur, à la source même de la vie. Verset 6. Ce qui est dans le cœur sort par les lèvres et se manifeste dans la vie. Il importe donc que le cœur soit rempli de la parole de Dieu, et tellement plein qu'il n'y ait plus de place pour les folies et les vanités de ce monde. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Nous pouvons donc juger de ce qui est dans le cœur par ce qui sort de la bouche. Quand le cœur est réellement gouverné par la parole de Dieu, toute la conduite le montre. Le cœur est le ressort principal de tout notre être moral. Dans toute la Bible, nous voyons l'importance que Dieu attache à l'état du cœur vis-à-vis de lui ou de sa parole, ce qui est la même chose. Lorsque le cœur est vrai pour Dieu, tout va bien. Il nous est dit de Barnabas, en relation avec les nouveaux convertis d'Antioche, il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Acte 11, verset 23. Exhortation nécessaire, maintenant comme alors. La tiédeur et le formalisme sont haïssables aux yeux de Dieu. La vie extérieure peut être correcte et les principes tout à fait orthodoxes, mais si l'engagement du cœur manque, tout le reste est sans valeur. C'est par le cœur que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est pourquoi l'apôtre priait pour les saints à Éphèse, afin que les yeux de leur cœur soient éclairés. Éphésiens 1, verset 18. Remarquons ici une caractéristique du livre du Deutéronome. Il ne s'agit pas seulement d'observances religieuses, de sacrifices, de rites et de cérémonies. Tout cela y a sans doute sa place, mais ce n'est nullement la chose principale. La parole de Dieu est l'objet capital, la parole de l'Éternel sur le cœur d'Israël. Le Deutéronome n'est pas un livre de cérémonie, c'est un livre d'obéissance morale. Il enseigne, presque à chaque page, que le cœur qui aime apprécie et honore la parole de Dieu est prêt à tout acte d'obéissance. Il pouvait arriver qu'un Israélite se trouve en un lieu ou dans des circonstances où il ne pouvait accomplir strictement les rites et les cérémonies de sa religion. Mais il ne pouvait jamais être placé dans un milieu où il ne puisse aimer, révérer la parole de Dieu et lui obéir. Même emmené captif au bout de la terre, rien ne l'empêchait de dire « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. » Psaume 119, verset 11. Et agir en conséquence. Ces paroles expriment le grand principe de la vie divine en tout temps et en tout lieu. Notre Dieu nous a donné sa parole, et il nous exhorte à la laisser habiter dans nos cœurs et gouverner toute notre vie et toute notre conduite. La parole de Dieu dans les maisons. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Versets 6 à 9. Tout cela est magnifique. La parole de Dieu cachée dans le cœur et découlant du cœur en instruction pour les enfants et en sujet de conversation dans le sein de la famille. La parole brillant dans tous les actes de la vie journalière, de sorte que tous ceux qui entrent dans la maison peuvent voir que la parole de Dieu est la bannière de tous ses habitants. C'est ainsi qu'il devrait en être maintenant des chrétiens. Mais est-ce ainsi que nous enseignons nos enfants? Nous efforçons-nous de rendre la parole de Dieu attrayante pour leur cœur? La voient-ils briller dans notre vie journalière, exercer son influence sur notre humeur, notre caractère, nos habitudes, nos occupations, nos affaires? Car c'est bien ce que signifient les expressions « lier la parole comme un signe sur la main et un fronteau entre les yeux » ou « l'écrire sur les poteaux de la maison et sur les portes ». Il ne sert pas à grand-chose de nous efforcer d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants si nos vies ne sont pas gouvernées par elle. La Bible ne doit pas être un simple livre d'école qu'il s'agirait d'apprendre comme une tâche. Nos enfants devraient voir que nous vivons dans l'atmosphère de l'Écriture et qu'elle forme le sujet de notre conversation dans nos familles. Mais n'avons-nous pas sujet d'être humiliés lorsque nous réfléchissons au caractère habituel de nos conversations familiales? Combien peu la parole de Dieu y est présente? Que de causeries oiseuses et mondaines? Que de médisances sur nos frères? Que de babil futile? D'où cela provient-il? Simplement de l'état de notre cœur. La parole de Dieu, les commandements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'habitent pas dans nos cœurs, et ils n'en sont pas remplis, et n'en débordent pas. Quel est le témoignage du Nouveau Testament à ce sujet? Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Colossiens 3, versets 15 et 16. Quel tableau délicieux de ce que devrait être toute vie chrétienne! C'est le développement de ce qui se trouve dans notre chapitre. Ayons donc un cœur rempli de la paix de Christ, de la parole de Christ lui-même. Ne pas oublier Dieu dans la prospérité. Et il arrivera, quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner, de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, et des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, et des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et que tu mangeras et que tu seras rassasié. Alors prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Versets 10 à 12. Au milieu de toutes les bénédictions de la terre de Canaan, ils devaient se souvenir de celui qui les avait tirés de la maison de servitude. Ils devaient se rappeler aussi que toutes ces choses leur étaient données gratuitement. Le pays et tout ce qu'il contenait devenaient leur partage en vertu des promesses de Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les villes bâties, les maisons remplies, les puits creusés, les vignes et les oliviers prêts pour la récolte, tout était le don gratuit de la grâce souveraine. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'en prendre possession avec une foi simple et de garder à toujours dans leur cœur le souvenir du donateur. Ils devaient penser à lui et trouver dans son amour le vrai motif d'une vie d'obéissance. De quelque côté qu'ils tournent leur regard, ils voyaient les preuves de sa grande bonté, les fruits abondants de son amour merveilleux. Chaque ville, chaque maison, chaque puits, chaque vigne et chaque olivier leur parlaient de la grâce de l'Éternel envers eux et leur donnaient la preuve de sa fidélité à ses promesses. Craindre l'Éternel. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu jaloux. De peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi et qu'il ne te détruise de dessus la face de la terre. Versets 13 à 15. Dans ce chapitre, deux grands motifs sont placés devant la congrégation. L'amour, au verset 5, et la crainte, au verset 13. Nous trouvons ces motifs dans toute l'Écriture, et on ne saurait leur donner trop d'importance comme mobile de la vie et de la conduite du croyant. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Sois tout le jour dans la crainte de l'Éternel. Proverbe 23, verset 17. C'est le refuge moral contre le mal. Voici, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. Job 28, verset 28. Le livre divin abonde en passages qui montrent la grande importance de la crainte de Dieu. « Comment, dit Joseph, ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39, verset 9. Le chrétien qui marche habituellement dans la crainte de Dieu est préservé de commettre toute espèce de mal. La réalisation constante de la présence divine doit être une protection efficace contre les tentations. Lecteur chrétien, efforçons-nous de vivre comme étant dans la présence immédiate de Dieu. Alors nous serons préservés du mal sous mille formes diverses. Nous sommes exposés au mal journellement, et nos dispositions nous y poussent. La pensée que les yeux de Dieu sont sur nous, si elle était entretenue dans nos cœurs, aurait sur nos vies et nos paroles une influence déterminante. Une influence beaucoup plus puissante que la présence de tous les croyants de la terre et que celle de tous les anges du ciel. Cette crainte de l'Éternel, dont l'Écriture parle tant, deviendrait pour nous un rempart contre toute mauvaise pensée ou action, contre le mal sous toutes ses formes. Si nous nous rappelions que Dieu nous voit, qu'il entend chacune de nos paroles, qu'il connaît chacune de nos pensées et chacun de nos actes, comme nous nous conduirions différemment. C'est alors que nous pourrons montrer l'influence de l'amour qui nous étreint. L'amour du Christ nous étreint, dit l'apôtre, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Que Dieu veuille que tout cela soit plus pleinement réalisé parmi nous, et que la crainte et l'amour de Dieu soient continuellement dans nos cœurs avec leur puissance sanctifiante. Alors, notre vie journalière serait à sa louange et en bénédiction pour tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Ne pas tenter l'Éternel. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Verset 16. C'est le verset cité par notre Seigneur lorsqu'il a été tenté par Satan à se jeter du haut du temple. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le faîte du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Matthieu 4, versets 5 et 6. Ce passage nous montre que Satan peut citer l'Écriture lorsque cela lui convient. Ici, il fait pourtant une omission importante. Le psaume 91 dit « Il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, verset 11. Or, il n'entrait pas dans les voies de Dieu de se jeter du faîte du temple. Ce n'était pas le chemin du devoir. Il n'avait pas reçu de commandement de Dieu à ce sujet. Par conséquent, il refuse de le faire. Il n'avait pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve, de le tenter. Il avait, comme homme, une entière confiance en Dieu, une parfaite assurance en sa protection. Le Seigneur Jésus n'allait pas quitter le sentier que Dieu lui avait tracé pour voir si Dieu aurait soin de lui. Cela nous enseigne une importante leçon. Nous pouvons compter entièrement sur la protection de Dieu tant que nous sommes sur le chemin où Dieu nous veut. Mais si nous choisissons notre propre route, si nous recherchons notre plaisir ou notre intérêt, il est présomptueux de dire que nous comptons sur Dieu. Sans doute, notre Dieu est plein de grâce et d'amour. Ses compassions sont sur nous, lors même que nous nous écartons du chemin où nous devrions être. Mais n'oublions pas que nous ne pouvons compter sur la protection divine que lorsque nous marchons dans le sentier de l'obéissance. Si un chrétien expose sa vie en escaladant les Alpes simplement pour son plaisir, a-t-il le droit de croire que Dieu prendra soin de lui? Que sa conscience réponde. Mais si Dieu nous appelle à traverser un lac en tourmente pour aller prêcher l'Évangile, ou s'il nous ordonne de traverser les Alpes en vue d'un service spécial qu'il nous a donné, alors certainement, nous pouvons nous confier en sa main puissante pour nous protéger contre tout mal. Le grand point pour chacun de nous, c'est d'être trouvé dans le chemin que Dieu nous trace. Il se peut que ce chemin soit étroit, rude et solitaire, mais il n'en est pas moins sous la protection des ailes du Tout-Puissant et illuminé par la lumière de sa face. Il est intéressant de remarquer que notre Seigneur, dans sa réponse à Satan, ne fait aucune remarque sur sa citation incomplète du psaume. Il cite simplement un autre passage, comme faisant autorité pour sa propre conduite. C'est de cette manière qu'il vainque le tentateur et qu'il nous laisse un exemple à suivre. Le Seigneur Jésus n'a pas vaincu Satan par son pouvoir divin. S'il en avait été ainsi, il ne pourrait être un exemple pour nous. Mais lorsque nous le voyons, comme homme, se servir de la parole seule pour arme et par elle remporter la victoire, nos cœurs sont encouragés. Nous apprenons comment nous devons, dans notre propre sphère, résister aux tentations. L'homme Christ Jésus vainquit en se confiant simplement en Dieu et en obéissant à sa parole. Quel encouragement pour nous! Satan ne pouvait rien sur celui qui ne voulait agir que sur l'autorité divine et par la puissance de l'Esprit. Jésus n'a jamais fait sa propre volonté, quoique, nous le savons, cette volonté ait été absolument parfaite. Il est descendu du ciel, ainsi qu'il nous le dit lui-même en Jean 6, non pour faire sa volonté, mais la volonté du Père qu'il avait envoyé. Du commencement à la fin, il a été un serviteur parfait. Sa règle de conduite était la parole de Dieu. Sa puissance pour agir était le Saint-Esprit, et son seul motif d'action était la volonté de Dieu. Par conséquent, le chef de ce monde n'avait aucune prise sur lui. Satan, malgré toutes ses ruses, ne pouvait le faire quitter son chemin d'obéissance et de dépendance. Faire ce qui est bon et droit. Les versets 17 à 25 du chapitre qui vient de nous occuper sont aussi très caractéristiques du livre tout entier du Deutéronome. La parole de Dieu est placée devant nous dans chaque page. C'est le grand sujet de tous les discours du législateur, celui qui lui tient le plus à cœur. Son but est de glorifier la parole de Dieu sous tous ses aspects, ses témoignages, ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, et de démontrer l'importance d'une obéissance entière et zélée de la part du peuple. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu. Verset 17. Et plus loin, tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel. verset 18. Devant nos yeux sont placés ces principes éternels qu'aucun changement de dispensation ne peut altérer. Ce qui est droit et bon sera toujours tel. Cela nous rappelle les paroles de l'apôtre Jean à Gaïus. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. 3 Jean, verset 11. Beaucoup de choses affligeaient sans doute le cœur de Gaïus. Diotrèphe se comportait d'une manière impardonnable envers le vénérable apôtre et envers d'autres. Mais que devait faire Gaïus? Simplement imiter ce qui était droit et bon, ouvrir son cœur, sa main et sa maison à tous ceux qui apportaient la vérité, chercher de toute manière à aider la cause de Christ.